I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand je serai grande, je serai astronaute. Quand je serai grande, je serai astronaute.
Nous vous retrouvons pour la seconde et dernière partie de notre entretien avec Jeanne. Dans cette seconde partie, Jeanne aborde la suspicion du corps enseignant autour du ramadan et des parents de confession musulmane. Et à travers son expérience professionnelle, en tant que directrice de l'éducation en charge du pilotage de la politique éducative, elle donne quelques conseils aux parents, afin d'éviter la désorientation des enfants racisés. Jeanne a d'ailleurs constaté les effets probants de la mobilisation parentale. Selon elle, la communauté éducative serait plus encline à réfléchir face à des parents combatifs et deviendrait plus tendre envers les élèves concernés. Elle y aborde aussi la non-prise en compte de la parole et de la douleur des personnes racisées et du drame auquel son fils a échappé de peu, suite à des préjugés qui ont failli lui coûter la vie, ce fameux syndrome méditerranéen, qui consiste à penser que les personnes originaires du continent africain auraient tendance à exagérer et simuler la douleur. Je vous invite à poursuivre votre écoute avec Jeanne. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux parents? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petit tuyau pour éviter justement que ces enfants-là se retrouvent pris au piège de l'étau de cette réorientation?
Alors, ce que je conseille en tant que maman, et déjà, c'est vous mobiliser en tant que représentant de parents. Mobilisez-vous en tant que représentant de parents parce que c'est essentiel. Personne ne défendra nos enfants comme nous.
Oui.
C'est, enfin, moi je l'ai vu sur plein de situations et notamment ces dernières années où on signalait les enfants pour radicalisation. Enfin, je veux dire, je l'ai vécu de l'intérieur. Une histoire banale d'un, je donnerai pas le prénom, mais voilà, d'un ami qui était dans la même école que mes enfants. Le jour, enfin pendant la période du Ramadan, son fils en CE1, CE2 ou CE2 partait pour un pique-nique avec la classe. Il a oublié son pique-nique. Donc, personne n'appelle le papa pour lui dire que son enfant, ou la maman, pour lui dire que l'enfant a oublié le pique-nique. La directrice de l'école, donc, a décidé que l'enfant faisait le ramadan. Elle a posé la question à l'enfant, il lui dit « Non, je ne fais pas le ramadan, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai oublié mon pique-nique. » Qu'est-ce qu'elle a fait, sa directrice d'école? Elle est revenue, elle a toujours pas appelé ni le père ni la mère, elle a appelé l'inspection et elle a fait un signalement.
Ouais.
Elle a signalé, donc le père de famille, voilà, en disant que voilà, il y avait un signalement de radicalisation, un risque de radicalisation.
Mais te rends-tu compte, enfin, je trouve ça juste affreux et de se dire tous ces raccourcis en fait, son stéréotype, elle l'avait déjà dans la tête. C'est voilà, elle attendait juste le petit truc pour pouvoir en fait valider son stéréotype.
Oui, complètement.
De se dire ah, ça aurait été un enfant blanc qui avait oublié son pique-nique. À aucun moment elle appelle qui que ce soit pour dire qu'il y a radicalisation,
quoi. Mais complètement. Voilà. Et puis alors, et pour le coup, peu importe la classe sociale, parce que là je parle de voilà, d'une personne qui a un niveau social extrêmement élevé, mais il a été mis dans la musulman, racisé musulman, et donc elle s'est, voilà, elle s'est permis. Alors, il faisait partie des représentants de parents, et on s'est retrouvé face à l'inspection, et on a travaillé le dossier, et on est arrivé avec leur guide de la laïcité, en surlignant, en écornant chaque page pour vraiment leur mettre leur racisme face à eux, enfin leur montrer leur racisme et montrer à quel point c'est ridicule. Parce qu'on s'est retrouvé avec l'inspectrice, deux représentants de l'État qui défendaient la laïcité au sein de l'école, et il a fallu que on défende le fait qu'il n'était pas qu'il n'obligeait pas son enfant à faire le ramadan. Donc avec ce parent, on s'est retrouvé face à ces personnes qui étaient en train de nous expliquer qu'il obligeait son enfant à faire le ramadan et que c'était contre les lois de la République et les lois laïques, voilà, qui sont censées être mises en application au sein de l'école.
Mais il y a toujours ce côté préjugé coupable, hein, déjà. Hein, on est voilà, toujours vu, perçu avec un œil, un regard un peu accusateur. On va faire des choses horribles, on est des... Ouais, derrière ça, il y a le côté terroriste, on est des monstres.
Mais,
hein.
Mais c'est ça, mais complètement. Enfin, c'est une aberration totale pour un enfant qui a juste oublié son
CE2.
Pique-nique.
Un enfant CE2 qui a oublié son pique-nique.
Et ce qui est inquiétant, c'est qu'à aucun moment elle n'a appelé les parents et que l'enfant n'a pas mangé de la journée. Mmh. Il a eu quelques biscuits par ses copains.
Ouais. Il n'y a pas le bien-être de l'enfant derrière tout ça.
Absolument. Je veux dire, allez, elle est directrice d'école, elle a ses a priori, elle a son racisme, son islamophobie, ok. Mais là, on parle d'un enfant, donc la première chose, c'est d'appeler le parent en lui disant « Vous arrivez tout de suite et vous apportez de quoi nourrir l'enfant. » Et l'enfant n'en a pas parlé, parce que on l'a su après, parce qu'elle n'a pas non plus appelé le papa. Et l'enfant n'en a pas parlé parce qu'il se sentait coupable, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Mm. Ce qui est pareil, une aberration. Mm. L'institution fait porter à un enfant déjà de la maltraitance et... une façon de remettre en question son identité, sa foi, la foi de ses parents. Donc, des situations comme ça, on en a des dizaines. Mmh. Engagez-vous en tant que représentant de parents. Oui, ça prend un peu de temps. Oui, ça peut être compliqué. Bien sûr que ça oblige à combattre. Mmh. Mais même si vous n'avez pas envie de combattre, inscrivez-vous sur une liste. C'est vraiment les deux, trois premiers de la liste qui vont au front. Mais soyez présents sur la liste. Mmh. C'est une façon de défendre et de défendre vos enfants et de défendre les enfants racisés aussi. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. On ne peut pas dire, je mets mon enfant à l'école et je fais totalement confiance. Mmh. On le fait pas dans les autres espaces.
Tout à fait.
Aujourd'hui, il y a aucun espace où on laisse notre enfant et on dit, on fait confiance. Mmh. Même dans la famille, on essaie d'être attentif et on leur donne quelques recommandations.
Tout à fait.
Donc là, c'est important. C'est important aussi de se renseigner. Un enseignant reste un être humain.
Tout à fait.
Comme n'importe qui. Un directeur d'école est un être humain, comme n'importe qui. Donc, tout le monde est en capacité de faire des erreurs. Mm-hmm. Tout le monde est en capacité d'avoir des a priori ou des représentations.
Tout à fait.
Voilà.
Enfin, on n'en connaît pas leur idéologie. Hein.
Exactement.
Et on n'a pas le curriculum vitae de l'idéologie de la personne qui est en face.
Exactement. Un enseignant ne doit... Enfin, j'ai beaucoup d'amis racisés en plus enseignants, doit pas être mis sur un piédestal. Ça reste un professionnel comme un autre professionnel, un professionnel de l'éducatif. Donc... quand vous n'êtes pas d'accord, dites-le, écrivez à l'inspection, écrivez à la DAZEN ou au DAZEN, à la direction académique, écrivez. Si vous pensez que vous êtes dans votre droit et que ce qui se passe avec votre enfant, et je pense notamment, parce que je l'ai beaucoup vu, les enfants en situation de handicap racisés. Parfois, c'est très souvent, les enfants en situation de handicap, c'est catastrophique à l'école. Mais quand ce sont des enfants racisés, ou quand ce sont des enfants racisés primo-arrivants, je vous parle même pas de la triple violence qu'ils subissent. Entourez-vous, posez des questions, renseignez-vous. Allez dans des associations, des centres socio-culturels. Il en existe dans toutes les villes. Mais si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, faites-vous représenter. Mais ne baissez pas les bras. Vraiment, c'est compliqué. Mais pensez d'abord à votre enfant, baissez pas les bras. Alors très souvent, les parents disent « Oui, mais bon, si je fais ça, l'enseignant va faire la misère à mon enfant. »
Exactement, parce que c'est aussi la peur qui arrive très souvent.
Mais bien sûr, bien sûr.
Et parce que ça arrive dans beaucoup de cas.
Et ben, vous serez encore plus vigilant. Parce que évidemment, ça reste un être humain. Tu auras des attitudes vis-à-vis de votre enfant, donc il faudra accompagner votre enfant. Je sais que ce que je dis, c'est pas facile. Et ce n'est pas simple, et ça inquiète, et ça fait mal au ventre. Parce qu'on a déjà beaucoup de choses à gérer, alors en plus s'inquiéter quand on les laisse à l'école. C'est se rajouter un poids sur les épaules. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup, parce que quand un enfant voit aussi qu'on se bat pour lui, qu'on se bat pour son orientation, qu'on se bat pour des choses dont il n'est pas responsable, pour le défendre...
Ça le renforce
et il grandit avec une confiance en lui qui est plutôt rare. Donc, il faut vraiment se battre,
se mobiliser
et être entouré, vraiment être entouré. Pareil pour l'orientation. Pour l'orientation, si vous n'êtes pas d'accord avec une orientation vers le professionnel ou si vous souhaitez une autre orientation, renseignez-vous, renseignez-vous, allez taper à toutes les portes. Vous avez beaucoup de possibilités de recours. Voilà la différence avec...
avec nos parents, avec, à l'époque.
Avec nos parents, exactement. Aujourd'hui, il y a des possibilités de recours et vous devez être aussi en capacité de vous renseigner, d'aller chercher l'information. Mm-hmm. Et si ce n'est pas possible, ben, de demander de l'aide. Et peut-être une troisième chose qui me semble essentielle, et ça, c'est quelque chose que je vais travailler toute l'année au boulot, mm-hmm. parce que je n'en peux plus. D'entendre et de voir la stigmatisation autour de la langue maternelle.
Oui.
Parlez votre langue maternelle à la maison. Parlez, l'enfant n'aura pas plus de difficultés. Au contraire, il développera des compétences linguistiques qui sont extrêmement recherchées plus tard et essentielles pour l'identité de l'enfant. Parlez votre langue maternelle à la maison. D'ailleurs, c'est une association du Lala que j'apprécie
je connais
beaucoup
aussi.
Et qui dit il vaut mieux la langue maternelle qu'un français cassé finalement. et la langue maternelle, enfin, je veux dire, elle a du sens, ça enracine l'enfant et ça lui permet vraiment de développer des compétences. N'ayez pas peur de ne pas parler français à la maison. J'ai entendu des enseignants dire « Oui, alors tel enfant ne parle pas français à la maison, il va falloir avoir une vigilance, ou on va le mettre dans tel dispositif parce qu'à la maison, il ne parle pas français ». Ne vous obligez pas à parler français.
Par contre, juste quelque chose, moi j'ai rarement, enfin jusqu'à présent je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas vu un seul enfant dont les parents ne parlaient même pas français, par exemple, ici en France, en ayant grandi ici en France, qui ne parle pas français. Ça veut dire que là, j'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui des gens de ma génération ou autres qui sont, et même des personnes qui sont arrivées plus tard en France, ayant été scolarisées en France, avec des parents qui parlaient une autre langue que le français, ne sachant pas parler français ou ayant des difficultés en français.
Complètement. Mais ça complètement.
N'est, ben, je ne vois pas, je ne rencontre pas.
Voilà. Mais complètement. Au contraire. Alors, les enfants ont cette capacité à s'adapter. Mmh. Si vous êtes là depuis pas très longtemps ou si vous avez du mal avec la langue française, parce qu'on peut avoir du mal avec cette langue, ou si vous tenez à votre langue maternelle, à nos langues maternelles.
Exactement.
Parce que la transmission, elle est aussi essentielle de transmettre sa langue d'origine à l'enfant. Ne culpabilisez pas et toutes les études cognitives et toutes les études linguistiques le montrent. La langue maternelle parlée à la maison permet vraiment à l'enfant de développer plein de compétences.
Le développement psychologique même, voilà.
Exactement. Donc ça c'est important.
Le plus important, tout ça, c'est bien la relation à la famille, la relation entre mère et enfant, entre père et enfant. Oui. Donc, si ce lien-là est cassé, si ce lien-là ne se développe pas correctement, il est justement là le problème, et pas inversement. C'est pas des étrangers à la famille, à la maison, qui ont la responsabilité de la transmission de l'histoire familiale, de l'histoire tout court. Donc, le lien le plus important, c'est réellement le lien parent. Enfant.
Complètement. Complètement. Alors, je te rejoins parfaitement. Et puis, reprenons la logique. Les enfants qui sont très bons, on les enlève du milieu familial. Les enfants, on les coupe avec leur langue maternelle. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un système aussi qui se construit. C'est un système qui relègue les parents. Le parent est le premier acteur éducatif de son enfant. Vous êtes les premiers, nous sommes les premiers responsables et nous sommes les premiers acteurs. Personne, d'ailleurs j'ai un très bon pédiatre qui me disait, personne n'est capable aujourd'hui de savoir ce qu'il y a de mieux pour l'enfant que son père ou sa mère et sa mère. Ou son père et son père, ou sa mère et sa mère, peu importe. Donc le parent ou les parents, on est en capacité de dire non pour la scolarité. On est en capacité de dire à la maison, je veux parler telle langue avec mon enfant. Et à l'école, il parlera français.
Très bien.
Et il n'y aura aucun souci
là-dessus. Ça se passe très bien pour les personnes qui sont anglophones, par exemple, qui parlent anglais à la maison et français à l'extérieur. Des personnes qui vont parler espagnol à la maison ou d'autres qui vont parler allemand. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ça va être le malgache, l'arabe, ou lingala. Il n'y a aucune raison.
Autre chose pour les parents, faites confiance à votre enfant. Vraiment, écoutez-le. Prenez soin de lui quand il est face à l'institution scolaire. J'expliquais tout à l'heure que j'ai été très souvent dans des conseils de discipline Et j'ai vu, évidemment, tout le corps enseignant qui peut tomber sur l'enfant avant une exclusion. Et là, le parent qui est dans une colère. Et parce que c'est normal, il a 10-15 personnes autour de la table qui lui disent que son enfant est un bon à rien. 10-15 personnes
autour de la table. C'est violent même pour l'enfant, hein, pour la confiance en lui, pour voilà, de se dire tous ces adultes mais face à lui, il est acculé face à toutes ces... C'est quand même, il y a déjà rien que ce conseil de discipline, je trouve que c'est d'une violence pour une personne qui peut être en échec scolaire ou...
Mais complètement. Et puis, on en rajoute.
On fait pas ça pour des adultes. Hein. Non. On n'est pas tout seul face à dire toute la tout le comité de direction en train de nous dire t'as raté, t'as pas réussi, tu as complètement échoué sur... Enfin, c'est horrible. Hein.
Et ben là, pour le coup, c'est un tribunal. Mm-hmm. Alors, je sais que les enseignants qui vont m'écouter vont se dire, oui, mais bon, moi, dans mon établissement, oui, je veux bien... toi, enseignant, dans ton professeur, dans ton établissement, oui, chacun individuellement fait des choses. On parle d'un système global. Mm-hmm. On ne parle pas de choses qui sont individuelles. Et la réalité des conseils de discipline dans les collèges, c'est que c'est d'une rare violence. Et pour cet exemple, donc, le parent s'est levé et a tapé l'enfant. Alors, évidemment, le corps enseignant dit, voilà. Évidemment, hein, ce sont des parents qui, de toute façon, ne tapent...
Que la violence.
Voilà, ne connaissent que la violence. De l'autre côté, l'enfant se fait humilier. Il y a une forme... Alors, j'ai vu parfois, vraiment pendant les 8-9 ans où j'ai été présente dans des conseils de discipline, j'ai vu parfois cette satisfaction à ce que l'enfant... Parce qu'il y a une volonté, quand il est agité, de lui mettre une claque. J'imagine que l'enseignant y pense. De voir ce parent être hors de lui et lui donner une claque. Alors, je comprends qu'avoir toutes ces personnes qui sont extrêmement violentes envers votre enfant puissent mettre en colère. Mais cette colère, elle doit être utilisée pour d'autres choses. Il faut se serrer les coudes, faire confiance à l'enfant, écouter votre enfant. Vous connaissez votre enfant mieux que personne. Écoutez-le et surtout... Essayez de ne pas réagir lors de ces conseils de discipline. Essayez de ne pas réagir à vif contre l'enfant. Si c'est compliqué, demandez à quelqu'un de venir avec vous. Vous avez l'autorisation de venir avec une autre personne.
C'est ça, c'est important de le dire. Ça.
Voilà, vous pouvez être accompagné par qui vous souhaitez. Ils ne peuvent pas vous dire « vous venez seul ». Si c'est compliqué, si la langue française est compliquée, vous pouvez demander à avoir un interprète ce jour-là. Et un interprète dans la langue d'origine. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous pouvez venir avec quelqu'un de la famille, vous pouvez venir avec un professionnel du social, de l'éducatif, associatif. Une personne de confiance. Je pense qu'il y a un maillage dans chaque ville. Donc, n'y allez pas seul si vous sentez que ça va être compliqué ou trop lourd à porter. Et puis, s'il faut résister, résister. On peut avoir tort en résistant, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même résister parce que plus le corps enseignant et la communauté éducative voient que le parent résiste et est en capacité de défendre son enfant, et plus il sera plus tendre avec l'enfant. Faut vraiment pas penser que si on fait rien, ils vont laisser couler. Au contraire.
Ça, c'est important ce que tu dis là, parce que c'est vrai que il y a quand même une double peine du coup par rapport à l'enfant là, parce que ce qui est important, c'est quand même son bien-être, c'est de se retrouver là face à ce banc d'adultes qui l'accule toutes les fautes, et de se retrouver en plus délaissé là à ce moment-là par son parent et d'être réellement seul. L'adolescence, c'est un moment compliqué. Oui. Hein. On y a tous, même en tant qu'adulte, parfois les choses sont compliquées. Donc, de se retrouver en échec, de se retrouver en situation de stress, ne sachant pas quoi faire de sa vie en plus, et de se retrouver face à des adultes qui disent des mauvaises choses sur vous, en fait, qui vous critiquent, parce que c'est ça aussi un conseil de discipline, c'est de pointer tout ce qui ne va pas. Et en plus de pas avoir quelqu'un de familier proche de soi qui se soutient, ça peut être un moment très, très, très difficile pour un enfant.
C'est un moment très compliqué pour l'enfant. Et puis, il faut récupérer après. Une fois que l'enfant a été exclu, moi, j'avais travaillé à la
mise
en place.
Tout n'est pas perdu. Il y a des choses qui se font. C'est pas la fin. Le monde ne s'écroule pas à ce niveau-là.
Exactement, exactement. Et je mettais en place des dispositifs de prise en charge des collégiens temporairement exclus. Et on faisait pas du scolaire pendant ce dispositif. Rencontrer des professionnels du milieu culturel. Ça peut être la découverte du théâtre et tout le travail aussi au sein d'un théâtre. C'était beaucoup de propositions pour ouvrir le champ aux enfants.
Le champ des possibles.
Et voilà, le champ des possibles. Donc c'est pas parce qu'il n'est pas très bon en maths ou que il est agité ou bavard que c'est un mauvais enfant. Je veux dire, l'identité de l'enfant, sa personnalité, ce n'est pas une personnalité scolaire. Voilà. Moi, je disais très souvent à mes équipes, il est peut-être très mauvais cet enfant en mathématiques ou en français ou dans n'importe quelle autre matière, mais qu'est-ce qu'il est bon aux échecs, mais qu'est-ce qu'il est bon à organiser un grand jeu, mais qu'est-ce qu'il est bon quand il doit créer. Faisons confiance à nos enfants. Il existe mille et un métiers, il existe plusieurs voies possibles. Moi, je n'étais pas du tout destinée à travailler dans les politiques éducatives. À la base, je devais travailler dans l'économie sociale et solidaire, avec une formation voilà, autour de l'économie. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé sur des questions de santé, sur des questions de développement urbain et sur d'autres questions. Je me suis rendu compte que le champ le plus essentiel aujourd'hui reste l'éducation. Et on doit donner toutes les possibilités dans ce champ-là. Faites confiance à votre enfant. Faites-vous confiance à vous. Faites-vous confiance. Ce n'est pas parce que l'enseignant vous dit que il est pas bon en telle chose ou il tient pas en classe, etc., que votre enfant va aller à l'échec. Faites-lui confiance. Soyez à l'écoute et donnez-lui d'autres possibilités aussi.
Oui.
Et puis que veut dire l'échec ? Enfin, à un moment donné, l'échec scolaire ne veut pas dire l'échec de sa vie.
Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, de toute façon, aujourd'hui, on n'est plus comme dans les années 60.
C'est ça.
On change, on évolue, on apprend, on finit jamais d'apprendre et reprendre des études, c'est possible à tout moment aussi.
Exactement.
Et on peut aussi apprendre autrement que par des études.
Exactement. Il y a différentes façons d'apprendre. Et puis, puisque j'en étais au quatrième, je vais passer au cinquième.
Voilà, vas-y.
Comme ça, on est sur un chiffre impair et ça me va bien.
Très bien.
La question de l'exemplarité, essayez vraiment autant que possible, et j'essaye de le faire et en tant que maman, parce que je me suis rendu compte que c'était important de les emmener vers des personnes qui leur ressemblent, ce qui veut dire des livres écrits par
Exactement.
Des personnes qui leur ressemblent, leur faire écouter de la musique de personnes qui leur ressemblent aussi, de les emmener dans des expos, d'aller voir des films, de les habiller aussi par des créateurs qui leur ressemblent. Moi, quand j'étais ado, oui, alors j'adorais George Sand, mais vraiment j'adorais George Sand, mais elle me ressemblait pas à George Sand. C'était, elle avait pas ma vie, elle avait pas mon histoire, elle était pas dans un trois pièces à je sais pas combien, on était neuf, elle était pas dans une situation sociale compliquée et elle était blanche. Donc, la condition
de femme,
convergente,
hein.
C'était la condition de femme. Et encore, elle avait pas le même père que le mien. Mais voilà, essayez justement de donner des figures, de leur permettre de découvrir des figures. On a des astronautes qui nous ressemblent.
Exactement.
On a des musiciens classiques qui nous ressemblent.
Faire l'effort de rechercher tout ça et d'apporter en fait tout ça à son enfant, ça fait aussi partie de l'éducation, en fait.
Ça fait partie de l'éducation, exactement. Et si ça n'existe pas, alors je fais un appel à tous ceux qui veulent créer, de créer.
Exactement.
Je trouve qu'il n'y a pas assez de danseurs ou danseuses classiques aujourd'hui. Il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où on n'est pas représenté. Donc vraiment développer tout le potentiel qu'on peut avoir dans cette communauté de racisés. Et puis les parents, vraiment, voilà, enfin il y a des livres, il y a aujourd'hui une possibilité infinie de permettre à nos enfants de découvrir des auteurs, des autrices et des personnes qui leur ressemblent.
Exactement, tout à
fait. Voilà, pour les 5 conseils que j'essaie d'appliquer, évidemment. je donne des conseils, mais
c'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile. On parle de l'éducation, mais il y a tellement d'autres champs. Il faut qu'on soit vigilant. Vraiment, les parents, soyez vigilants sur la santé, la question de la santé.
La santé mentale.
Santé mentale.
Ah oui, et puis alors là, c'est vraiment important sur ce que tu me racontes aussi. Tu nous en as parlé avec Ulrich la dernière fois. Ce qui s'est passé pour ton fils. Alors là, si tu peux nous en parler.
Il y a un an et demi, donc mon petit garçon se plaint de douleurs de ventre, il vomit, enfin dans un état pas possible. Je l'emmène aux urgences pédiatriques. Le premier soir, on me dit non, mais c'est rien, c'est une gastro. Mais attendez, il se tord en deux. Non, c'est rien, c'est une gastro. Bon, ok, on rentre à la maison, on redonne ce qu'on nous donne habituellement. Le deuxième soir, on revient. pareil, il n'avait pas mangé, il s'était vidé, il était vert, livide, enfin, vraiment dans un état pas possible. Son père le portait à bout de bras. Et là, on me dit, oh, mais il fait beaucoup de cinéma, hein, ça doit être ses origines, évidemment, origine méditerranéenne. Il fait beaucoup de cinéma. Ils ont dû l'examiner. Pour l'examiner, ils lui ont mis un gaz. Donc, quand on fait du cinéma, on n'a pas besoin de mettre un gaz. Et en fait, ils n'ont pas pris en compte la douleur de mon fils. Donc le lendemain, pour faire très court, je l'ai emmené dans une clinique privée. Je ne voulais plus retourner à ce service pédiatrique parce que je savais qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Et donc il a eu une péritonite appendiculaire, donc l'appendicite qui a explosé. Et le chirurgien m'a dit qu'il lui restait 2 heures. Voilà. Et je sais que après cette histoire, il y a eu un petit garçon noir qui est mort aussi d'une péritonite appendiculaire. Donc, quand n'écoutez personne, écoutez-vous, il n'y a pas... alors, ils ont la sensation que nos enfants, parce qu'ils sont racisés, supportent...
mieux la douleur.
Mieux la douleur.
Ou alors, parfois, ils en font trop. Voilà,
ou ils en font trop, etc. On le sait très bien en tant que parents que le système de santé est assez compliqué, et notamment avec les racisés. Écoutez votre enfant et faites confiance à vos instincts de parents. Moi, cette expérience m'a bouleversée parce qu'à vie, il aura des séquelles. Et elle m'a bouleversée parce que je me dis qu'ils n'ont même pas regardé toutes les constantes de mon enfant. Ils sont partis sur le fait qu'il faisait du cinéma.
Mais c'est ça, c'est cette remise en question de notre parole constamment.
Constamment.
Peu importe ce qu'il arrive, ce qu'on dit... ne vaut pas la peine d'être entendu.
C'est ça.
Ça peut aller très loin, hein, parce que ça peut nous mettre en danger nos enfants. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment très important que nous, en tant que parents, nous puissions aussi leur faire confiance. Parce que si personne ne les écoute...
C'est ça.
On sait ce que c'est de ne pas être écouté, de toujours avoir l'impression de déformer les choses, déformer la réalité. Et c'est difficile de se construire comme ça, où on est entendu nulle part, et que tout ce qui vient de nous est forcément faussé.
Oui.
Je trouve que, encore une fois, là, il va falloir en parler pour un autre épisode, mais de se dire, posons-nous la question, comment nous sommes-nous construits les uns les autres, avec cette sensation de ne jamais... être prise en compte dans notre parole, dans la façon dont on décrit les choses, dans la façon dont on s'adresse aux autres, dans la façon dont on se comporte, comment on est toujours dévalorisé, décrié, remis en question, jugé, vu comme des personnes agressives. Il y a énormément de choses qui se jouent derrière ça. Et de vivre toute une vie ainsi, c'est quand même très compliqué.
Oui, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Juste une dernière anecdote. Je suis allée voir l'ORL il n'y a pas très longtemps. Il regarde mes oreilles, il me dit, mais vous avez dû avoir beaucoup, beaucoup d'otites, enfant. Vous avez vraiment beaucoup de cicatrices. J'ai eu des otites. Il me dit, mais vous avez eu énormément d'otites. Et je le vois. Donc, en fait, j'ai passé mon enfance à avoir des otites, à souffrir. C'est vrai que quand j'étais plus petite, à l'école, on me disait « Oui, mais tu n'entends pas bien, on te met devant, etc. » le médecin « Mais non, mais il n'y a rien du tout. » Et en fait, à minimiser, et je me suis dit « Mon Dieu, mais en fait, entre mon fils et moi, il y a 30 ans, et avec ces 30 ans d'écart, on en est toujours en même situation. » Alors moi, j'ai eu des otites, c'est vrai que j'en ai souffert toute petite, mais je pense que personne n'a rien soigné, parce que c'est des otites qui n'ont jamais été soignées, en plus. Donc, personne ne s'en est soucié plus que ça, ni l'école, ni voilà, parce que, bon, oui, parce qu'on supporte super bien la douleur, c'est bien connu.
on n'a pas le choix, tout simplement.
On n'a pas le choix, et on se tait, et on prend sur soi, pour le coup, parce qu'on sait que, voilà, ça ne sert à rien. Voilà. Donc oui, il faut écouter... nos enfants, parce que personne ne le fera pour nous. Et puis après, on réglera les comptes à la maison. C'est comme ça que ça se passe. Oui.
mais c'est compliqué, hein, en tant que parent. Parce que du coup, tu as toi-même, en fait, tu vis toi-même tes blessures, tes luttes au quotidien, à la boulangerie. Enfin, c'est une lutte du quotidien. Mais tu dois aussi lutter pour tes enfants. Que ça soit chez le médecin, à l'école, dans les activités, dans la façon dont... Au parc. Voilà. Donc, c'est une perpétuelle lutte.
Oui, et puis, alors, pour le coup, cette lutte, je la continue, alors, et en étant militante dans mon travail. parce que c'est pas anodin de travailler sur les questions de politique éducative. Mmh. Et mon boulot, c'est d'éviter que, et je le dis entre vous et moi, d'éviter qu'il y ait le moins de dégâts possible sur les enfants racisés. Mmh. Et ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et c'est épuisant. C'est épuisant parce que, parce qu'on avance difficilement, on fait un pas en avant et on en fait 10 en arrière constamment. Oui. Il suffit d'un événement médiatique pour que tout revienne en arrière. Bon, après, c'est, on décide de faire de sa vie un combat ou pas. Moi, je considère que je vois pas ce que je peux faire oui. d'autre, en fait, que ça. Oui, c'est épuisant. Après, il faut avoir une bonne sophrologue, mmh. c'est tout.
Et prendre soin de soi, et se faire du bien soin. En ouais. ayant bah, des personnes, nous aussi, une soupape, hein, des personnes oui. à qui parler. Oui. Moi, je conseille encore une fois, toujours, je sais que dans nos communautés, c'est pas toujours facile, mais les psychologues,
oui.
les psychologues racisés, oui, 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 je signe, je le dis, de se dire bah, ne pas avoir une violence supplémentaire face à des personnes parfois qui ne comprennent pas ou qui déplacent le problème ailleurs. Mm. Et de se dire, oui, consulter des personnes, oui. parler autour de soi, s'entourer de groupes de... faire des groupes de parole, pourquoi pas, s'entourer de personnes bienveillantes, parce que il ne faut pas minimiser les coups qu'on reçoit, et en faisant attention à soi, on sera aussi capable de faire attention à nos enfants, et on aura peut-être aussi plus d'espace et plus de force pour se parer contre ce qui pourrait leur arriver. Voilà.
Oh, vraiment, alors ça, c'est le meilleur conseil. Vraiment, c'est un conseil qui est important parce que je repense à mon papa pour boucler mm-hmm. voilà, mon intervention. Il en a eu des douleurs dans son corps, vraiment, beaucoup de douleurs dans son corps. Et il n'a jamais, jamais, jamais rien dit. Et je sais que les douleurs qu'il a eues dans son corps, c'est tout ça, toutes ces humiliations, baisser la tête, se battre. Alors, il y a la violence sociale, il y a la violence raciale, il y a... Voilà. Et je sais qu'il prenait sur lui, prenait sur lui. Alors, c'est... Voilà, c'est quelqu'un qui est mort avec une maladie qui est très typique, hein, l'estomac. Mm. Il prenait. Il avait des moments de grosses douleurs quand j'étais petite. Cet estomac, là, cet endroit, le foie, le lieu de la colère. Mm-hmm. C'est pas anodin, tout ça.
Et, bien sûr.
Et vraiment, je veux rendre hommage à nos Chibani qui ont fait... Et voilà, nos parents qui nous ont donné aussi cette capacité à nous battre et qui emportent les séquelles. Mm. Qui emportent les séquelles, déjà parce que leur métier était difficile et parce qu'ils ont dû, eux, se taire. On n'a plus à se taire. Il y a bien un moment maintenant, aujourd'hui, pour nos enfants, où on ne doit pas se taire, on doit se préserver et préserver nos enfants aussi. Voilà, c'est vraiment, pour clôturer, quelque chose qui me semblait important.
Écoute, bah, très bien. Je te remercie encore une fois.
Je t'en prie. Merci
et puis, je te dis à très bientôt.
À très bientôt. Merci.
Merci, au revoir.
Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles.
5,
ainsi
5,
que
5.
De partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook.
Et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com.
À très bientôt, Ulrich.
En tout cas.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.